Jean, chapitre 8, à partir du verset 30. Alors, j'ai noté tout à l'heure que Michael a souligné qu'on pouvait aller chercher une Bible pour suivre, et peut-être que si vous n'en avez pas avec vous, ce texte est assez riche, peut-être, pour qu'on puisse effectivement avoir l'aide, que l'aide de la Bible, de suivre sur la Bible, soit nécessaire. Et il est assez long également. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « vous deviendrez libre » ?» en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, lorsque je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Texte chargé, hein? Et si je devais qualifier la relation, l'ambiance qui règne dans ce passage entre Jésus et ces personnes avec qui il a affaire, je dirais le ton monte. Et c'est pas de maintenant déjà que le ton monte. Il a commencé de monter dans les passages précédents. Et là, on n'est pas encore allé jusqu'au bout de la conversation parce que le ton monte à tel point encore par la suite, si vous le lisez chez vous, que après avoir fini par traiter Jésus de possédé, ils se saisissent de Pierre pour le lapider. Et ce à quoi, bien sûr, Jésus échappe en se cachant et en s'éloignant. Alors, quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le fond du sujet. Nous sommes juste après les paroles de Jésus dans lesquelles, paroles de Jésus dans le temple, dans lequel il se déclare être la lumière du monde. Et déjà, Jean remarque, au verset 20 de ce même chapitre, que rien que pour cela, il aurait déjà dû être arrêté. Déjà, l'incompréhension régnait parmi les Juifs et déjà le ton montait. Mais néanmoins, on constate de manière assez surprenante, dès le début de notre passage, au verset 30, qu'il est mentionné que beaucoup crurent en lui. Et quand on dit beaucoup, c'est pas une erreur de traduction, c'est vraiment le sens profond. De nombreux étaient ceux qui crurent en lui, c'est ce que dit le mot grec, c'est pas quelques-uns, ce n'est pas plusieurs, c'est nombreux. Comme quoi, même dans une situation d'hostilité, d'hostilité collective, comme ça semble être le cas ici, avec tout ce qu'elle peut revêtir d'apparence stérile, hein, de discussions inutiles, d'impropre à toute forme de réflexion personnelle, finalement, certains cœurs restent accessibles. Vous savez, parfois on emploie le terme de minorité bruyante, hein, pour qualifier ces personnes qui prétendent contester au nom de toute la collectivité, à tel point que l'orateur a l'impression, l'orateur qui s'adresse à l'Assemblée a l'impression que toute l'Assemblée est contre lui. Force est de constater que ce n'est pas le cas ici et que de nombreuses personnes se laissent toucher et convaincre. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle Jésus persiste, hein, dans cette controverse qui l'amène jusqu'à son paroxysme, on pourrait dire, et pour laquelle il tient tête résolument à ses détracteurs, peut-être à cause de ces personnes qui sont touchées et qui croient en lui. Il y a une petite difficulté. Le verset 31 nous parle de Juifs qui avaient cru en lui. Et ensuite, il semble que ce sont ces mêmes personnes qui entrent en contradiction avec lui. Le texte n'est pas très clair et je crois assez fermement que si Jean précise que ces personnes, qu'il y a des personnes crurent en lui dès cet instant, elles ne changent pas toutes en tout cas d'attitude à son égard comme ça au cours de cette conversation. Et donc, un peu plus loin, on parle des Juifs, hein, qui rentrent en contestation avec lui. Les Juifs, sans plus de distinction. Alors, il est donc un peu légitime de s'interroger, est-ce que ce sont ces mêmes personnes qui sont mentionnées, celles qui crurent en lui? Parmi ces Juifs, quid de ceux qui, effectivement, nous étaient dit, ont cru en lui? Est-ce qu'ils sont toujours là, toujours présent, mais peut-être silencieux? Les paroles les plus tranchées qu'on entend, qui se développent au cours de cette conversation, de la part, en particulier de la part de Jésus, est-ce qu'elles renforcent leur foi en lui, leur conviction qui s'est faite auparavant, ou au contraire, ont-ils tendance à se raviser à leur sujet? Et le plus probable, à mon avis, est que une multitude d'avis et d'opinions, les avis divergent, hein, parmi toutes ces personnes. On ne sait pas exactement d'ailleurs combien elles sont. On comprend qu'il y a pas mal de gens. Mais en tout cas, très certainement, les paroles de Jésus creusent leur sillon dans le cœur des personnes, à leur rythme, à chacun, et selon l'inclination de leur cœur. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Rares sont ceux qui se laissent convaincre dès la première annonce de l'Évangile. Et même parmi ces fervents de la dernière heure, il n'est pas rare que certains laissent l'affaire aller au bout de quelque temps, jettent l'éponge, que oui, le revers de conviction est relativement fréquent à court ou moyen terme, même chez les fervents de la première heure. Et ça, c'est une chose qui s'est déjà produite d'ailleurs dans ce même évangile au chapitre 6, alors que Jésus se présente comme l'unique pain de vie, mettant chacun vraiment en face d'un choix personnel, un choix incontournable. Et nous étions à ce moment-là, au chapitre 6, dans une discussion assez identique à celle-ci, qui opposait l'enseignement de Jésus à la tradition des ancêtres parmi les Juifs. Et à cette occasion-là, plusieurs de ceux qui s'étaient dit jusque-là disciples, qui se considéraient disciples, ont jeté l'éponge et s'éloignent. Donc on peut raisonnablement penser qu'il en est de même ici, que toute une diversité d'attitudes, d'avis est représentée dans l'auditoire. D'une part, ceux qui avaient cru et que ces dernières paroles de Jésus confortent dans leur foi. Ils ne reviennent pas en arrière, mais au contraire, ils adhèrent et ils vont plus loin avec Jésus. Ceux qui avaient adhéré, on vient d'en parler, dans un premier temps, mais qui pour là, non, c'en est trop. Ceux qui n'en sont peut-être encore qu'au stade préliminaire de s'interroger. Tiens, ça vient faire écho dans leur cœur, mais ils ont encore besoin d'avancer. Ceux aussi, peut-être, qui sont aujourd'hui hostiles, mais demain, qui sait ? Et puis, il y a ceux qui s'engagent violemment, bruyamment, contre Jésus et son enseignement, qui sont appelés indistinctement ici les Juifs, des Juifs qui, ce faisant, ne réalisent pas à quel point ils élargissent le fossé qui les sépare de Dieu. Ils sont probablement soucieux de préserver l'ordre établi par le respect des traditions, mais ils offrent, sans le vouloir et à leur insu, d'une certaine manière, à d'autres Juifs l'occasion d'entendre l'enseignement tranché de Jésus et de faire un choix personnel décisif. Comme nous l'avons dit, la parole de Dieu trace son sillon. Et en définitive, la trace qu'elle laissera durablement dans le cœur des personnes, c'est cette trace qui déterminera laquelle de ces personnes est de Dieu, laquelle ne l'est pas. Pour reprendre l'expression même de Jésus, hein, qui est les toutes dernières paroles de Jésus dans notre passage, « Vous êtes de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu ». C'est son expression elle-même, c'est ce qu'il a dit lui-même. Et donc, après avoir considéré ici le public présent dans cette conversation et les effets de la controverse sur le public, venons-en au sujet de la controverse elle-même. Et tout commence par une association un peu surprenante, verset 32, une association entre vérité et liberté. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. Et alors là, je note deux choses. La première, c'est que Jésus semble s'adresser plus spécifiquement à ceux d'entre les Juifs qui avaient cru en lui. C'est dit nommément, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est donc vraiment à ceux qui ont cru en lui qu'il adresse ces paroles. Et la deuxième chose que je note, c'est qu'elle est assortie, cette parole est assortie d'une condition, cette promesse, de cette déclaration sur la vérité qui rend libre, est assortie d'une condition, demeurer dans sa parole, ce qui est la marque des vrais disciples. C'est ce que dit là Jésus. On est au cœur du truc, adhérer à son enseignement et le suivre jour après jour. Et manifestement, en dehors de cette perspective, il n'y a pas grand-chose d'autre à attendre, mais dans cette perspective, quiconque croit en lui et demeure dans sa parole connaîtra la vérité et la vérité le rendra libre. De quelle liberté parle Jésus ? Et d'ailleurs, cette mention intrigue vraiment les auditeurs. De quoi veux-tu nous libérer ? Lui disent-ils. Ce qui sont appelés les Juifs, hein, qui sont au niveau du fer de lance de la contestation, de quoi veux-tu nous libérer ? De quoi serions-nous prisonniers ? De qui serions-nous esclaves ? Nous, les descendants d'Abraham ? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est avoir un peu la mémoire courte. L'Égypte, c'était quoi ? La réponse de Jésus montre qu'il se place en fait sur un tout autre plan. Et il le dit nommément l'esclave du péché. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Une soumission à laquelle personne ne parvient à se soustraire malgré ses efforts nombreux et répétés. Et le référentiel de la loi ne fait que mettre en évidence jour après jour l'inaccessibilité de la sainteté. Le moindre progrès est effacé le jour suivant par une nouvelle chute. Et Jésus affirme que toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et ceci est vrai depuis Adam. Le péché nous a fait entrer dans l'esclavage et sa répétition, sa reproduction nous entretient dans cet état. Or, la particularité d'un esclave, c'est qu'il a perdu toute faculté de se libérer lui-même. D'ailleurs, s'il le pouvait se libérer lui-même, l'esclavage aurait disparu depuis longtemps. L'esclave ne s'appartient plus, il est livré au pouvoir d'un maître qui le domine à sa convenance et dont l'intérêt, bien sûr, est de le conserver à son service jusqu'à son dernier souffle. Seul un autre maître peut le racheter, s'il en paye le prix, et décider ensuite de lui accorder la liberté. Et là, Jésus dévoile en quoi son action est libératrice. Il ne rachète pas l'esclave afin de le maintenir dans son statut d'esclave, de la servir dans une nouvelle servitude, mais au contraire, afin de l'en libérer et de lui redonner son statut, un statut de fils de la maison. Mais il semble que ces paroles ne convainquent pas les auditeurs, les contradicteurs de Jésus, qui préfèrent s'en tenir à ce qu'ils connaissent et qui se raccrochent à ce qu'ils sont en tant que descendants d'Abraham. Ou plutôt à ce qu'ils croient être, parce que Jésus va aller plus loin dans son argumentaire. Vous êtes peut-être, je paraphrase, mais vous êtes peut-être les descendants d'Abraham de sang, mais vous ne l'êtes pas de cœur. Lui a recherché la vérité. Il a écouté Dieu. Si vous étiez ses descendants, vous agiriez comme lui. Lui ne s'est pas opposé à Dieu comme vous le faites en cherchant à me faire mourir. Vous ne lui ressemblez en rien. Il ne suffit pas de se réclamer de quelqu'un pour être son disciple. Encore faut-il écouter et suivre son enseignement. Se réclamer d'Abraham sans marcher dans les pas d'Abraham annule toute forme de filiation avec lui. On est dans l'usurpation d'identité. De par votre faculté à fuir la vérité et à vous complaire dans le mensonge, vous coopérez à l'œuvre du diable et vous lui ressemblez à tel point que c'est de lui que vous tenez votre filiation. Il vous tient par ses mensonges et vous a rendu incapable de m'écouter. Et nous trouvons ici le schéma dual du précédent, le schéma précédent, vérité, liberté, une vérité qui libère, et le schéma qui lui est opposé, une forme de dualité avec le premier, le mensonge qui nous tient dans l'esclavage. La vérité libère, le mensonge asservit. La vérité libère, quand bien même elle est difficile à entendre. Et elle est difficile à entendre, on le voit ici, beaucoup ont du mal à l'entendre. La vérité sur nous-mêmes, sur nos erreurs, nos fautes, sur nos illusions, a pour effet de nous en libérer. On peut imaginer que dans l'auditoire, plusieurs prennent la mesure, une certaine mesure, de ces paroles de vérité pour eux-mêmes. À l'opposé, le mensonge asservi. Le mensonge asservi, quand bien même il est doux à entendre, il serait doux à entendre, et peut-être surtout quand il est doux à entendre, ou quand il fait écho à nos plus bas instincts. L'actualité internationale que nous voyons se dérouler sous les yeux nous a donné de voir depuis plusieurs années déjà à quel point on peut endormir et manipuler les foules à l'aide de fausses vérités, voire de mensonges avérés, que tout le monde sait qu'il s'agit de mensonges, mais on y va quand même. Jésus nous présente le diable comme le père du mensonge. Et il faut bien se souvenir que c'est par un mensonge que le diable a touché l'humanité. Par un doute, tout d'abord, instillé dans l'esprit d'Ève, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez aucun des arbres, aucun des fruits des arbres du jardin? Vous voyez la fausseté de la suggestion. Dieu a-t-il vraiment dit? Et puis, cette propension à à déformer, à tordre la vérité par l'exagération. Aucun des fruits des arbres du jardin. Dieu n'a jamais dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Et d'ailleurs, Ève déjoue ce premier piège en rétablissant la vérité. Nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin, excepté de celui qui est au milieu. Mais le diable revient à la charge avec un autre mensonge, lourd de sous-entendu, sur les motivations de Dieu. Je paraphrase, la vérité, c'est que Dieu n'a aucune envie que vous en sachiez autant que lui. En réalité, il désire vous tenir dans la soumission, ne vous laissez pas avoir, vous ne risquez absolument rien à braver ses interdits. Et ce piège, on le sait, a fonctionné et on connaît la suite. Et dès cet instant, Adam et Ève ne sont plus libres. Ils viennent de se mettre sous la coupe du diable qui les tient. Le mensonge ne sera plus, dès cet instant, l'apanage du diable, mais sera utilisé par tous leurs descendants, par toute l'humanité, pour se tromper et s'exploiter les uns les autres, très loin de la liberté à laquelle Dieu les avait destinés. Paradoxe de la situation, un des effets de la perte de liberté a été et demeure aujourd'hui à chercher à la retrouver, cette liberté perdue, non pas en tentant de revenir au commandement de Dieu, mais au contraire en allant plus loin dans l'éloignement, en cédant encore et toujours à l'illusion du mensonge, en s'éloignant toujours plus de ses commandements. Et l'apôtre Pierre évoque ceux qui adoptent ce mode de vie dans sa deuxième épître et qui cherchent à y entraîner les autres. Je lis, « Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé en lui. » Tout homme est esclave de ce qui a triomphé en lui. C'est comme si, à la suite d'un écart sur la route, je ne cherchais pas à rétablir la situation, mais par un coup de volant bien ajusté pour revenir dans le droit fil de la route, mais qu'au contraire, je me laisse attirer par le fossé. C'est très paradoxal comme attitude. Et ce paradoxe est peut-être souligné, c'est peut-être ce qu'il souligne au verset 45, Jésus, quand il dit « Mais moi, je vous dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » C'est complètement paradoxal, c'est parce que c'est la vérité qu'on ne la croit pas. À croire que, en perdant sa liberté, l'esclave perd aussi le goût de la liberté. Et c'est exactement ce qui semble se produire pour ces Juifs qui s'opposent à Jésus. Ils vivent dans l'illusion de leur appartenance à ce qui animait, dans leur appartenance à la descendance d'Abraham, sans pour autant entrer dans ce qui animait Abraham. Hein, l'Épître aux Hébreux nous le dit largement, l'attente d'une cité au fondement solide, la recherche d'une patrie céleste. Contrairement à eux, ils ne s'appuyaient pas sur les valeurs du passé, ils avaient au contraire son esprit entièrement tourné vers la descendance dont ils sont la réalisation, la promesse qui lui avait été faite dont ils sont la réalisation, mais malheureusement, s'en montre indigne. Ce n'est pas le sujet de ce passage, mais à côté des formes de péché, nous en avons parlé, hein, donc l'éloignement des commandements divins, ni Dieu ni maître, hein, dans lequel beaucoup s'engagent. Il existe une autre forme d'esclavage qui avait cours du temps de Jésus, c'est le légalisme. Hein, on voit Jésus beaucoup confronté à cette question. Et même si la loi de Moïse n'est pas évoquée ici, on parle dans les ancêtres, on parle d'Abraham, Moïse n'est pas évoqué, et la loi non plus, mais on comprend bien qu'elle fait partie de la culture et de l'héritage de ceux qui se réclament de la descendance d'Abraham. Et le légalisme participe au péché dans le sens où il procède d'une forme d'orgueil, à considérer la justice et la sainteté accessibles par ses seuls efforts et par l'observation de règles et de rituels. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé en lui, nous dit Pierre, et il semble évident que le légalisme et l'orgueil ont triomphé de ces personnes qui ne reçoivent pas l'enseignement de Jésus. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film Le Brio, dans lequel un professeur de faculté endosse la responsabilité de préparer une étudiante à un concours d'éloquence. Et il s'appuie beaucoup sur l'ouvrage d'Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, qui développe une multitude de techniques pour que, dans la joute oratoire, prendre le dessus, avoir confondre l'autre par une série d'arguments. Et alors, ce prof dit à cet élève, il lui répète sans cesse, la vérité, on s'en fout, ce qui compte, c'est d'avoir raison. Et voilà, en fait, être le plus fort, hein, prendre le dessus dans la guerre des mots, et le mensonge n'étant pas un problème, c'est un moyen comme un autre. Et on le voit, hein, aujourd'hui, le mensonge est très utilisé, hein, dans les conflits internationaux qui se développent sous nos yeux, et nous voyons quotidiennement le mensonge démultiplié par ses effets, démultiplié par les moyens de communication modernes. Dans notre texte, nous voyons où mène l'absence de recherche de la vérité. Parlant de l'Antichrist qui agit sous la puissance du diable, Paul annonce aux Thessaloniciens, à propos des temps de la fin, je lis dans la version du Semeur, « Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Moi, je frémis, hein, lorsque je projette ces paroles sur la situation que nous avons sous les yeux, sur ces personnes, sur ce texte, dans ce texte qui est là, le diable usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Lesquels sont ceux qui se perdent ici ? Ceux qui sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. On peut espérer, on en a parlé au début, que ceux qui ont commencé à croire en Jésus ce jour-là auront persévéré. On peut espérer que plusieurs auront été interpellés par la vérité qu'il a annoncée, avec tant de force, hein, et même des paroles très tranchées. Et on peut espérer qu'ils auront un cœur de ne pas en rester là. On peut même espérer que certains de ceux qui se sont si fermement opposés à Jésus finiront par réaliser leur égarement. Alors, quelques applications de ce texte pour nous avant de conclure. Une chose est certaine, qui se dégage de ce texte, la recherche de la vérité, l'amour de la vérité, l'enracinement dans la vérité seront des atouts essentiels pour notre foi, pour qu'elle ne soit pas ballottée sur les flots, pour faire face au mensonge du diable et ne pas redevenir esclave du péché, pas plus que du légalisme d'ailleurs. Chacun, rappelons-nous les paroles de Pierre, chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Qu'est-ce qui va triompher en moi ? La vérité qui me rendra libre ou le mensonge qui me conduira dans l'esclavage ? Rappelons-nous que le mensonge marque souvent l'entrée dans un processus de péché plus important. Si le diable est le père du mensonge, comme le dit Jésus ici, le mensonge est souvent le père d'une série de péchés en cascade, de plus en plus lourds. Et ceci est très bien décrit dans l'épître, au chapitre 1 de l'épître de Paul aux Romains. Dans notre annonce de l'Évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus, souvenons-nous de ce texte et des paroles de Jésus pour souligner à quel point la vérité importe et qu'elle se trouve en Jésus seul. Vraiment, nous vivons un temps de relativisme dans lequel chacun se construit sa vérité, celle qui lui correspond le mieux. Il n'est pas aisé d'annoncer, de parler de la vérité dans son sens, dans ce contexte, dans son sens absolu et universel. Alors, nous ne sommes certainement pas dignes de prononcer des jugements contre les hommes, comme le fait Jésus. Vous avez pour père le diable, lui peut le dire, sans doute nous pas. Mais la responsabilité nous incombe tout de même d'opposer la vérité en Jésus au mensonge du diable, surtout lorsque le salut des âmes est en jeu. Et peut-être une application aussi pour nous qui sommes chrétiens, peut-être depuis longtemps, de nous souvenir que l'appartenance au peuple de Dieu ne nous dégage pas de notre responsabilité de rester attachés à la vérité, de la rechercher, de nous remettre en question et de demeurer en Jésus comme il nous l'a recommandé pour demeurer libres.